historiquement vôtre.
Le récit.
Absolument. Sir Winston Churchill attaque dès le matin avec du vin blanc et du whisky and soda, une habitude prise aux Indes. Au déjeuner, c'est vin et digestif. Et le soir, c'est entre autres du champagne. Winston Churchill était-il alcoolique?
Bah oui, vous venez de nous le dire.
Les avis s'opposent. Quoi qu'il en soit, dépendant ou pas, vous allez boire. Enfin, vous allez voir que la vie de l'ancien Premier ministre britannique est étroitement liée à ses boissons favorites. Quand on demandait à Churchill comment il faisait pour avoir une telle énergie, il répondait
« Le secret de ma vitalité, je n'ai dans le sang que des globules rouges. L'alcool a tué depuis belle lurette tous mes globules blancs. »
C'est un fait. Churchill, surnommé le vieux lion, meurt à 90 ans. Il n'a jamais caché son amour pour le cognac, le Cointreau, le Porto, les vins, le whisky, évidemment.
Il aime tout, en fait.
Le champagne. Son penchant pour l'alcool n'altère en rien son incroyable boulimie de travail. Bien au contraire, c'est même un carburant presque indispensable à sa réussite. Sa rencontre avec l'alcool, le petit Winston, garçon joufflu aux bouclettes rousses et aux poumons fragiles, a lieu dès sa plus tendre enfance. Ses parents, Randolph Churchill, ministre des Finances un temps, et sa femme, Jenny Jerome, fille d'un millionnaire, organisent régulièrement des bals, des dîners dans leur très belle demeure. Vous savez, il y avait Blenheim Palace, merveilleux palais. Parmi les invités prestigieux de cette fin du 19e siècle, le prince de Galles. Et évidemment, l'alcool ne manque pas. Confié à une nurse les premières années de sa vie, une fois inscrit à l'internat, il sombre régulièrement dans la dépression. La raison est simple, ses parents, trop occupés par leur carrière et leurs soirées mondaines, se montrent très distants avec lui. En 6 ans d'internat, sa mere, par exemple, ne lui a rendu que 8 visites.
Bon, forcément qu'ils se mettent à la boisson.
Dans ses lettres, son père le tense régulièrement. « Tu deviendras un simple rebut de la société, l'un de ces innombrables ratés qui sortent de public schools et tu t'avachiras dans une existence minable, malheureuse et futile. »
Raté.
Dès son adolescence, Winston noie alors son chagrin dans l'alcool et cigarettes, mais se jure de rendre un jour son père fier de lui. Il n'en aura malheureusement pas l'occasion. Randolph Churchill meurt en 1895 d'un autre excès. De la syphilis.
Ah, bah tiens, il n'était pas blanc-blanc, hein, le père Churchill.
Ah, bah les parents vous donnent toujours des leçons, mais enfin eux-mêmes. Hein. La même année, Winston Churchill s'envole pour Cuba. Il a 25 ans, jeune reporter. Il est passionné par cette guerre d'indépendance. Il en revient avec un goût immodéré pour les cigares. L'un d'entre eux, le double Corona de 19 mm, porte désormais son nom. Et bien sûr, l'alcool. C'est là-bas qu'il découvre notamment le Roncotelle. Un cocktail au rhum.
Je ne connais pas ça. Non,
je n'ai jamais goûté. Je n'aime pas tellement le rhum.
Ah bon ? Je note.
Toute sa vie, Churchill est attiré par les théâtres d'affrontement. Étrangement, il s'y sent plus vivant que jamais. Aux Indes, au Soudan et surtout en Afrique du Sud. Il s'embarque en 1899 et hors de question pour lui de voyager léger. 32 bouteilles de vin des secs, 1877, 18 de Saint-Émilion, 10 de vieux scotch, 12 de cordial au citron vert, 6 de porto blanc, 6 de vermouth français et 6 de très vieille eau de vie de 1886. En Afrique du Sud, Churchill écrit pour des journaux et il est grassement rémunéré l'équivalent de 41 000 euros pour 4 mois quand même.
Ça payait bien la presse écrite à l'époque. Ça a changé.
C'est mort. Capturé, il parvient à s'échapper. Certains disent que pour retrouver la liberté, il aurait notamment soudoyé des Sud-Africains avec des bouteilles de whisky.
Je n'ose le croire, pas Winston.
Plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, il demande à faire les tournées d'inspection sur le front. Il aurait dit alors... C'est que toute consommation d'alcool était interdite au QG du bataillon. On ne pouvait y boire que du thé fort avec du lait condensé, une boisson particulièrement répugnante. Dans les tranchées, par contre, on était nettement plus souple.
Vous faites bien, Churchill, un peu bourré.
L'alcool accompagne Winston Churchill dans chaque étape de sa vie.
Ah oui.
C'est difficile à dire, dans chaque étape de sa vie, surtout quand on est
quand on a préparé l'émission en se mettant dans les conditions, c'est-à-dire.
Mais c'est dans son immense carrière politique qu'elle a tenu un rôle de premier plan.
Et là, c'est le moment où vous allez prendre votre tea time, Stéphane.
Oh non, pour faire honneur à Winston, je m'en vais boire avec modération une petite lichette de Cointreau. Cheers.
Historiquement vôtre. Dans un instant, Mathieu Noël et Stéphane Bern reviennent pour la suite du récit. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement Vôtre continue. Chaque jour, trois personnages, un point commun. Et aujourd'hui, la savoureuse triplette, Lord Byron, Winston Churchill, Gérard Depardieu, leur cri de ralliement.
C'est le bon vin, c'est le bon vin qui nous met tous en train.
Stéphane Bern nous racontait le destin éthylique de Winston Churchill, un destin où alcool et politique se sont mêlés, voire emmêlés. Mais comme un bon vin, la carrière politique de Churchill n'aura de cesse de se bonifier avec le temps.
Absolument, Mathieu. Député à 26 ans, ministre à 32, Premier ministre à 67 ans, Churchill devient l'un des hommes politiques britanniques incontournables de la première partie du XXe siècle. Son éloquence pendant ses discours, ses traits d'humour, marquent à jamais ses collègues et l'histoire. Et son goût pour la boisson également. Alors qu'il se demande comment s'habiller pour un bal costumé, Nancy Astor, première femme élue à la Chambre des communes, lui lance « Allez-y à jeun, Winston, personne ne vous reconnaîtra ». Amateur d'humour, Winston est surtout un grand boulimique de travail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il multiplie les voyages en Europe, mais pas seulement. Au Caire, en janvier 1943, le général Brooke, qui l'accompagne, écrit « Il était guère plus de 7h30 du matin ». Nous avions voyagé toute la nuit dans un confort rudimentaire, parcouru 4000 km en 11 heures de vol sans escale, et voilà le petit Churchill frais comme un gardon qui dégustait du vin blanc au petit déjeuner après avoir bu deux whisky et fumé deux cigares. Ce n'est un secret pour personne. Churchill boit du matin au soir. Ses amis s'inquiètent pour lui. Dans une lettre à sa femme, le politique se confie. Lord Rothermere m'a proposé 2000 livres, l'équivalent de 100 000 euros aujourd'hui, si je renonçais à l'alcool pendant toute une année. J'ai refusé, car il me semble que dès lors, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue.
Mais Stéphane, pourquoi il y a un débat sur le fait qu'il soit alcoolique ou pas? Parce qu'il est la définition même de l'alcoolisme.
Oui, absolument. Absolument.
On est d'accord.
Vous connaissez cette phrase, une dame du monde qui était très laide, qui l'apostrophait. Mais vous êtes saoul, monsieur le Premier ministre. Madame, vous êtes laide. Mais moi, demain, ça aura disparu.
C'est horrible, il a vraiment dit ça?
Oui. Bon, enfin voilà, je m'égare de mon récit, je reprends. Winston Churchill est un hyperactif, il n'a pas le temps de lutter contre sa nature. En plus de la politique, vous savez, Mathieu, il excelle dans la peinture, d'ailleurs, ça se vend très bien, les peintures de Sir Winston. Et l'écriture de récits historiques.
Il a même été prix Nobel de littérature.
Mais absolument.
Mais bien sûr,
en 1953, cocorico, il s'adonne à ses activités artistiques en grande partie lors de séjours dans le sud de la France. Pour ses livres, il travaille de 22h à 4h du matin et impose ce rythme à ses trois secrétaires et six assistants. Pour tenir la cadence, vous en doutez, il ingurgite des litres et des litres de whisky et de champagne. Il avoue joyeusement qu'il ne pourrait vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin. Mais cette démesure n'est évidemment pas sans conséquence. Après plusieurs accidents vasculaires, il s'éteint le 24 janvier. 1965, à 8h du matin, soit très exactement 70 ans, mois pour mois, jour pour jour, heure pour heure, après son père. Ont-ils enfin trinqué dans l'au-delà? L'histoire ne le dit pas.